Bonjour madame.
Bonjour messieurs, bienvenue dans ce bulletin à la présentation Annie Kalani. Il est 6h du matin à Washington, 13h à Kubuta et Djanini en Eswatini, ex-Swaziland. En Guinée, le principal adversaire du président Alpha Condé à la récente présidentielle a appelé à une journée morte aujourd'hui à Conakry pour protester contre la proclamation de la victoire de M. Condé. Le financier présumé du génocide rwandais Félicien Kabuga comparaîtra mercredi pour la première fois devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, 2 semaines après son transfert à La Haye depuis la France. Accusé notamment de génocide, Félicien Kabuga a été arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cabale. Il est accusé de génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité. Ancien président de la tristement célèbre radio-télévision libre des Mille Collines, qui diffusa des appels au meurtre des Tutsis, il conteste l'intégralité des 7 chefs d'inculpation qu'il vise. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a salué hier l'élection de Joe Biden et Kamala Harris comme président et vice-présidente des États-Unis. Il se déclare prêt à poursuivre le partenariat privilégié entre son pays et les États-Unis pour la paix et la prospérité et développer ainsi le commerce et les investissements. En Égypte, les bureaux de vote ont fermé hier soir, mettant fin à la seconde phase d'élections législatives sans suspense, la victoire des partisans du président Abdel Fattah al-Sissi ne faisant aucun doute. La première phase avait eu lieu fin octobre et concernait, elle, 14 régions. Quelques 63 millions d'électeurs sur une population de 101 millions étaient appelés à renouveler leur parlementaire en élisant 568 députés sur un total de 596. Les 28 restants seront nommés par M. Sissi, qui a voté samedi. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a appelé dimanche à la libération immédiate des Libyens venus de l'est du pays et arrêtés arbitrairement par des groupes armés à leur arrivée dans la capitale Tripoli. L'ONU estime que ces arrestations cherchent à saboter les efforts visant à rassembler de nouveau les Libyens après le cessez-le-feu immédiat signé le 23 octobre entre les deux parties en conflit. Le ministère de l'Intérieur a condamné avec force ces arrestations, affirmant samedi sur Twitter que des poursuites ont été engagées à l'encontre des membres du groupe armé à l'origine de cet incident non revendiqué. Amnesty International a déploré lundi les poursuites lancées en Tunisie contre 40 internautes ces 2 dernières années, dont les animateurs des pages Facebook très suivis, des militants politiques ou défenseurs des droits humains, pour de simples critiques envers les autorités. L'organisation appelle les autorités tunisiennes à réformer les lois largement obsolètes et à protéger la liberté d'expression en abandonnant toutes les charges retenues contre les personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites pour avoir exercé pacifiquement le droit à la liberté d'expression. L'état de santé du président algérien Abdelmadjid Tebboune, infecté par le nouveau coronavirus et hospitalisé en Allemagne, est en constante amélioration, a annoncé dimanche la présidence algérienne dans un communiqué. Le ministre français des Affaires étrangères a réaffirmé dimanche le profond respect de la France pour l'islam lors d'une visite au Caire dans un contexte de tension entre Paris et le monde musulman autour de la publication de caricatures du prophète Mahomet. Présidentielle américaine, le démocrate Joe Biden a promis samedi soir d'être le président qui unifiera l'Amérique et de rassembler le peuple américain, célébrant dans sa ville de Wilmington une victoire convaincante face à Donald Trump. L'ex-président républicain George Bush a téléphoné hier à Joe Biden pour le féliciter de sa victoire. Le président des missionnaires du Kosovo, Hashim Thaçi, inculpé de crimes de guerre lors du conflit entre les forces serbes, comparé pour la première fois ce lundi devant un tribunal spécial, quelques jours après sa mise en détention à La Haye. Coronavirus, un couvre-feu nocturne, l'obligation du port de masque en extérieur et l'interdiction des fêtes publiques et privées entrent en vigueur ce lundi en Roumanie. Et le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a écarté dimanche l'idée d'un confinement imposé pour les personnes âgées afin de freiner la propagation du coronavirus, tout en souhaitant que les Français puissent fêter Noël le plus normalement possible. Au sport, les 48 matchs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations prévus du 9 au 17 novembre se joueront à huis clos, a annoncé la Confédération de football africain. En rugby, Silas Kanunu, surnommé le Mandela du rugby, est mort à l'âge de 87 ans, a annoncé la Fédération sud-africaine de rugby. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la voie de l'Amérique.
kabu kama unimu.